Chapitre 46. Revenons à Caton et à Pompée. Puis de là, nous jetterons un coup d'œil dans les Gaules et nous verrons ce que fait César. Caton est toujours l'homme excentrique, ayant le privilège de tout faire, mais avec tout cela, ne pouvant se faire nommer consul. Nous avons dit que Caton s'était mis sur les rangs et avait échoué. Ce n'est vraiment pas assez dire. Quand il s'agit d'un homme de l'importance de Caton, il faut encore dire comment il échoue. On se rappelle ce que Caton avait prédit à Pompée à l'endroit de César. César, il faut l'avouer, donnait parfaitement raison aux prophéties de Caton. Il était le seul qui grandit au milieu de ces jours désastreux. Il avait, avec un bonheur inouï, échappé à temps à ces guerres mesquines du Forum qui, depuis 6 ans, amoindrissait Pompée. Il y avait échappé pour faire la guerre, une guerre importante. Il y a dans la guerre quelque chose de sérieux et de loyal qui élève les hommes à toute la hauteur qu'ils sont susceptibles d'acquérir. Au Forum, qu'était César? Un tribun moins populaire que Claudius, moins énergique que Catilina, moins pur que les Gracques. À l'armée, César commençait à rivaliser Pompée et, en rivalisant Pompée, à dépasser tous les autres. Or, à cette magie de la gloire, la plus éblouissante de toutes les magies, se joignait cette habileté profonde, cette corruption sourde et éternelle, qui étaient les deux grands moyens de César. Caton voyait moins les victoires que remportait César dans les Gaules que l'effrayant chemin qu'il faisait dans Rome. Il n'y avait qu'un moyen pour Caton d'arrêter cette marche qui tendait à l'abolissement de la République. C'était de se faire nommer consul. Consul à Rome, il réagissait contre César, impérator dans les Gaules. Il se mit sur les rangs. Mais il fit décréter par le Sénat que les candidats solliciteraient eux-mêmes le peuple et que personne ne pourrait briguer les suffrages en leur nom. C'était un assez mauvais moyen d'arriver. Caton était par lui-même un médiocre sollicitaire. De notre côté, le peuple, dit naïvement Plutarque, était mécontent qu'on lui enlevât son salaire. Aussi, Caton, sollicitant à la manière du Coriolan de Shakespeare, échoua-t-il dans sa candidature. Or, il était d'habitude, quand on éprouvait un échec semblable, que celui qu'il avait éprouvé s'enferma pendant quelques jours et passa ces quelques jours avec sa famille et ses amis dans la tristesse et le deuil. Mais Caton ne fit point ainsi. Comme il mettait sa disgrâce sur le compte de la corruption et qu'il prétendait valoir mieux que son époque, il ne voyait dans cette disgrâce qu'un nouvel hommage rendu à lui par ses concitoyens. Aussi, ce jour même, se fit-il frotter d'huile et alla-t-il jouer à la paume au Champ de Mars. Puis, après son dîner, selon son usage, descendit-il au Forum sans tunique et sans souliers et s'y promena-t-il jusqu'à la nuit avec ses familiers. Le peuple suivait Caton, applaudissait Caton, mais ne le nommait pas consul. Cette conduite valut à Caton le blâme de Cicéron, l'homme du juste milieu. « Tu voulais être consul ?» « Ou tu ne voulais pas l'être ?» dit Cicéron. « Je voulais l'être, répondit Caton, pour le bien de la République et non pour la satisfaction de mon propre orgueil. »« Alors raison de plus, dit Cicéron, si c'était pour le bien de la République, il fallait sacrifier à la République ta rigidité. » Caton secoua la tête. Il était de ceux qui trouvent toujours qu'ils ont raison. Caton, nous l'avons dit, avait un fanatique que l'on appelait Favorinus. Cet homme était à Caton, ce qu'Apollodore était à Socrate. À Rome, on l'appelait le singe de Caton. Il se mit, lui, Favorinus, sur les rangs pour l'édilité. Il échoua. Il avait été soutenu par Caton. Caton ne portait pas bonheur, mais Caton était entêté. Il se fit remettre les tablettes où étaient inscrits les votes, montra que tous les votes étaient écrits de la même main, en appela au tribun et fit casser l'élection. L'année suivante, Favorinus fut nommé édile. Nous avons dit que tout nouvel édile avait coutume de donner des jeux. Favorinus chercha quel jeu il pourrait donner pour faire concurrence à Curion, son collègue. Curion était ruiné, mais comme on était ruiné à Rome, il devait peut-être 8 ou 10 millions, une misère. Il fallait que Favorinus ruinât pour rester au-dessous de cet homme ruiné. L'avantage des fortunes détruites, c'est qu'on ne craint pas de les détruire. À un moment donné, César aura besoin de Curion et lui donnera 50 millions de sesterces, 10 millions de francs. Est-ce que nous n'avons pas vu, de nos jours, des hommes qui n'étaient jamais ruinés ? Caton entra comme Favorinus donnait sa langue au chien, ne sachant que trouver de nouveau, dans une époque où Pompée faisait combattre 315 lions à crinière et 20 éléphants. Caton se chargea des jeux. Le bruit se répandit aussitôt à Rome que c'était Caton qui se chargeait des jeux de Favorinus. Caton, impresario, ce serait chose curieuse. Caton ramena les jeux à la simplicité antique. Au lieu de couronnes d'or, il distribua aux musiciens des couronnes d'olivier comme à Olympie. Puis, au lieu des présents magnifiques qu'on avait l'habitude de faire, il distribua aux Romains des cruches de vin, de la chair de porc, des figues, des concombres et des fagots de bois, et aux Grecs des poireaux, des laitues, des raves et des poires. Les Grecs, qui étaient gens d'esprit, croquèrent leurs raves et sucèrent leurs poireaux en riant. Les Romains, qui avaient bon estomac, mangèrent leur chair de porc et leurs figues en disant « Le drôle de corps que ce Caton !» Puis, par une de ces bizarreries comment fait le peuple mit à la mode les jeux de Favorinus. On s'étouffait pour aller chercher sa botte de rave ou son fagot. Curion et ses jeux firent un fiasco complet. Il est vrai que c'était Caton en personne qui posait les couronnes d'olivier sur la tête des chanteurs et qui distribuait les poireaux et les concombres. On voulait voir Caton marchand de légumes. Favorinus, du milieu de la foule, applaudissait Caton avec la foule. C'était pendant ce temps que s'accomplissaient, entre Milon et Claudius, les événements que nous avons racontés et à la suite desquels Pompée avait été momentanément nommé seul consul. Caton s'était d'abord opposé à cette nomination. Caton, on le sait, s'opposait à tout. Mais deux événements étaient arrivés qui, sans coïncidence entre eux, devaient cependant, selon Caton, avoir une influence fatale sur la liberté. Julie, la femme de Pompée, était morte, comme nous l'avons dit. Crassus avait été battu et tué par les Parthes. La mort de Julie rompait l'alliance du beau-père et du gendre. Julie était le trait d'union entre César et Pompée. La mort de Crassus rompait le triumvirat. La crainte que Crassus inspirait tout particulièrement à César et à Pompée leur faisait observer l'un vis-à-vis de l'autre les conditions du traité signé. Mais quand la mort leur eut enlevé cet adversaire qui pouvait, sinon par son génie, du moins par sa fortune, lutter contre celui des deux à qui la victoire fut restée, on ne vit plus que ce qui était réellement, c'est-à-dire deux lutteurs prêts à se disputer la possession du monde. Or, Caton n'aimait pas Pompée, mais surtout, il haïssait César. Caton n'oubliait pas que César avait publié son Anticaton et que, dans cet Anticaton, il lui reprochait deux choses. La première, d'avoir passé au tamis les cendres de son frère pour en extraire de l'or. La seconde, d'avoir cédé sa femme, jeune, à Hortensius, dans l'espérance de la reprendre plus tard, vieille et riche. Ce que fit Caton. En attendant, il se désespérait. Que voulaient donc ces deux hommes, César et Pompée, qui trouvaient le monde trop étroit pour eux deux? Les dieux avaient divisé l'univers en trois parts. À Jupiter, le ciel, à Neptune, la mer, à Pluton, les enfers, et le partage fait, tous dieux qu'ils étaient, ils s'étaient tenus tranquilles. César et Pompée n'étaient que deux à partager l'Empire romain, et l'Empire romain ne pouvait leur suffire.